France Inter, le 18-20.
Du concret ce soir au téléphone sonne. Alors que s'achève notre semaine consacrée à la lutte contre le réchauffement climatique à la veille de la COP24, on va faire escale dans des territoires qui se sont déjà lancés dans la transition écologique. Ils l'ont fait à leur niveau, au niveau local, et les résultats se voient. Il suffit pour cela d'aller le constater sur le terrain et de donner la parole aux élus pour qui l'écologie est une préoccupation quotidienne. On verra que la préservation de l'environnement n'est pas l'ennemi du porte-monnaie, ou pour dire les choses autrement, avec les mots de l'actualité, qu'il n'y a pas forcément besoin d'opposer la fin du monde et les fins de mois. Avec nous ce soir pour en parler, trois maires de trois communes de taille bien différente, une petite, une moyenne et une grande. La plus petite, c'est Ungersheim, dans le Haut-Rhin. Son maire, Jean-Claude Mensch, est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Mensch.
Bonsoir.
Vous êtes maire depuis 1989. Ça fait donc pratiquement 30 ans que vous êtes le maire d'Ungersheim, considéré comme un modèle du genre. On dira pourquoi dans un instant. Avec nous également Damien Carême, bonsoir.
Bonsoir.
Maire de Grande-Synthe, ville moyenne de l'agglomération de Dunkerque. Vous êtes maire, vous, depuis 2001. On vous connaît surtout pour votre action en faveur des migrants. Mais ce qu'on sait moins, c'est que votre commune vient à nouveau d'être désignée meilleure ville moyenne pour la biodiversité. Vous nous direz comment vous faites, sachant que vous êtes cerné par les sites Céveso. Le troisième maire qui est avec nous ce soir, c'est Éric Piolle, le maire de Grenoble. Il est en duplex des locaux de France Bleu Isère. Bonsoir Éric Piolle.
Bonsoir.
Vous êtes maire depuis 2014, maire d'une ville de 160 000 habitants, autant dire une autre échelle. La réalisatrice Marie-Monique Robin est restée avec nous, elle qui a réalisé un film sur Ungersheim, un film intitulé « Qu'est-ce qu'on attend ?». C'est précisément ce qu'on va se demander ce soir en donnant la parole donc à des élus qui n'ont pas attendu. Alors n'hésitez pas à nous appeler pour les interpeller ou pour nous raconter ce qui se passe chez vous. 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, direction le standard de France Inter, Laurence est en ligne. Bonsoir Laurence.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez du Val-de-Marne ?
Je vous appelle du Val-de-Marne, exactement.
Alors dites-nous tout.
Alors voilà, donc je projette de m'installer très bientôt dans ma commune d'origine, qui est une commune rurale, et qui n'est pas du tout engagée dans la transition écologique. Hein, c'est plutôt grande plaine céréalière, phytosanitaire, etc. Et en fait, ça m'atterre d'être dans cette démarche-là. Donc en fait, j'aimerais avoir des conseils de la part des intervenants ce soir, parce que comment faire en fait pour essayer d'engager des discussions avec soit les maires de communes, soit les présidents de communautés de communes, pour essayer d'ouvrir des brèches, de faire réfléchir, ne serait-ce qu'essayer de mettre un pied dans cette transition écologique, en fait, dans des communes où apparemment c'est plus envisagé comme un boulet que comme un avenir.
Merci Laurence, et vous n'êtes pas la seule à poser cette question. On en a plusieurs comme la vôtre sur franceinter.fr. Comment fait-on pour essayer de convaincre son maire qui veut répondre peut-être allez, Jean-Claude Mensch, après. Hein, peut-être le doyen ce soir, hein, on va vous donner la parole tout de suite.
Donc je pense que tout simplement, rentrer dans la transition écologique, c'est plutôt du bonheur qu'un boulet. Et que en s'y engageant avec résolution, on arrive à des résultats qui sont probants au niveau d'un budget, donc ce qui doit consoler les maires, puisqu'on réalise des économies, on crée des ressources nouvelles, on crée de l'activité, et puis surtout on crée du lien social, quoi, du bien-être.
Mais si le maire n'est pas convaincu ?
Si le maire n'est pas convaincu ?
Comment on pousse ?
Ben, on passe le film,
Marie-Monique,
qu'est-ce qu'on attend, le DVD est disponible, on peut, voilà. Non mais je rigole pas, parce qu'en fait, oui, il sert à ça, le film. Moi j'ai vu des élus, enfin des collectifs de citoyens qui ont dit on organise dans une petite salle, c'est vrai, hein,
oui,
dans une petite, tu en es témoin, n'est-ce pas, dans une petite salle des fêtes, on passe le film. Et ce qui est très touchant en fait dans l'histoire, c'est que c'est le conseil municipal qui porte cette transition, donc il y a des élus qui se reconnaissent dans monsieur le maire, n'est-ce pas ? Et je pense que, et tu as eu d'ailleurs beaucoup d'élus qui sont venus te rendre visite à Ungersheim après la sortie du film, parce que justement c'est un maire et son conseil municipal qui portent, et ça il faut arriver donc à les convaincre de regarder le film et ensuite d'aller à Ungersheim.
Damien Carême.
Vous savez, le maire, il reste jamais sourd à ses électeurs, à ses concitoyens et à ses consommateurs aussi, aux consommateurs de sa ville. Et voilà, moi, ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, c'est que c'est un vrai projet politique dans une ville comme la mienne qui est très marquée socialement, puisque 28% de chômage, 33% des foyers sous le seuil de pauvreté, c'est aussi la solution pour rendre du pouvoir d'achat à mes habitants. Donc on allie la transition écologique avec une transition sociale, avec une amélioration des conditions de vie des habitants. C'est un vrai projet politique pour un élu, pour une équipe municipale, aux habitants de demander à leur maire de s'engager dans cette transition. C'est vrai que je pense que les concitoyens sont en avance sur les élus locaux pour faire les pas qu'il faut petit à petit pour cette transition écologique.
Et puis pour pousser, bah évidemment, il y a les élections. Éric Piolle, en direct de Grenoble, c'est comme ça que vous êtes devenu maire, vous, sur une liste rouge-verte.
Sur une liste qui, citoyenne, solidaire, écologiste, qui a construit un projet commun. Oui, et c'est ça, en fait, qui crée de l'envie commune. Et cette envie, en fait, l'objectif, après, c'est de la transformer en plaisir de changer. On est tous résistants au changement. Mais je crois que quand on arrive à passer du plaisir à, en fait, l'action, de l'envie, je veux dire, à l'action, là, en fait, on avance. Donc, peut-être que, madame, vous pouvez commencer par créer, je sais pas, un collectif Alternatiba avec quelques personnes, 3-4 personnes. Et puis cette mise en action, quand on fait des choses concrètes, derrière ça fait tache d'huile. Et effectivement, les élus, ils s'imprègnent de cela. Ils sont souvent en retard sur la société civile, comme le disait Damien Carême, mais ils s'imprègnent de cela. Donc c'est des mouvements qu'on a vus se développer très fort, notamment évidemment au Pays Basque, cœur d'Alternatiba, mais en fait un peu partout dans les réseaux de villes dans le monde entier.
Voilà Laurence, vous avez eu quand même pas mal de bons conseils. On espère pour vous que ça va avancer dans votre commune. Patrice, lui, nous appelle de Damary-sur-Sault. J'avoue mon ignorance, je ne sais pas où se trouve cette belle commune. Bonsoir Patrice.
Bonsoir, c'est une mégalopole de 400 habitants dans la Meuse.
Ah, bon, donc j'ai une excuse. Hein.
Oui, mais ma question rejoint un petit peu celle de l'auditeur précédent. Je me demande si la principale difficulté pour un maire qui veut construire un projet environnemental en toute honnêteté, et j'insiste sur le mot honnêteté, ne réside pas en fait dans le fait de pouvoir résister à la puissance de lobbies qui auraient des intérêts divergents, voire en totale contradiction avec la protection de l'environnement, mais aussi, et là c'est très important, de trouver des moyens financiers qui ne souffrent d'aucune contrepartie plus que douteuse. Puisque vous me demandez où j'habite, vous le savez que la Meuse est pressentie pour l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, et on doit dire que pour trouver des fonds substantiels, les maires se trouvent bien souvent obligés de soutenir le projet CIGEO, donc que vous connaissez, qui est tellement prégnant que l'on pourrait presque le résumer à corruption, infiltration, garde à vue, enfumage, oppression, vous voyez. Et donc, comment est-ce que vous faites pour résister à des influences qui sont parfois un véritable dévoiement de la démocratie, comme c'est le cas ici?
Eh bien, on va poser la question à nos invités. Merci, Patrice, pour cette question. Jean-Claude Mensch.
Alors à Ungersheim, nous avons...
Il n'y a pas les mines de potasse dans lesquelles vous avez travaillé qui... Non, c'est fini.
Non, les mines de potasse, c'est fini. Mais disons qu'à un moment donné, nous avons été sollicités parce que il y a un parc à thème qui a été installé, qui s'appelait le Bioscope, qui était en réalité une coquille vide et qui n'a jamais atteint ses objectifs. Et donc l'idée était d'investir une forêt de 30 hectares pour y créer une population, une clientèle captive, donc avec un village de vacances. Et puis le conseil municipal à l'unanimité a refusé ce village de vacances malgré le miroitement d'une fiscalité attractive a priori, quoi. Mais bon, on sait que aujourd'hui que c'est pas le cas. En tout cas, nous avons sauvé une forêt de 30 hectares grâce à notre clairvoyance
et votre indépendance. Damien Carême, à Grande-Synthe, il y a Arcelor.
Oui.
Est-ce que c'est une grosse entreprise qui vous permet de bénéficier d'un certain nombre de moyens pour votre politique municipale?
Bien sûr. Alors, ma ville est née pour les besoins d'Usinor. Usinor n'existait pas au début des années 60. Et ma ville était un petit village de maraîchers de 1600 habitants. Et c'est devenu une ville de 25 000 habitants pour les besoins de cette industrie. Donc, elle est venue, cette ville s'est construite autour de cette industrie. Mais aujourd'hui, on fait le constat qu'on est au bout de ce modèle de développement sur l'agglomération. transition, en plus avec la désindustrialisation qui fait jour depuis quelques années maintenant. On résiste au lobby, c'est sûr. Moi, je résiste au lobby parce que je suis dans mon action, dans la social écologie, dans la réponse et dans la transition écologique. Je me suis opposé à l'implantation d'un terminal méthanier il y a 3 ou 4 ans sur l'agglomération de Dunkerquoise. Je viens de m'opposer à un type de développement du port de Dunkerque parce que c'était un port qui, enfin, c'est un développement qui va nous amener entre 1,5 million et 2,5 millions camions supplémentaires par an juste à nos portes. Donc, moi, je suis pas contre l'agrandissement du port et l'activité économique, mais pas dans ce sens-là. Il faut qu'elle soit respectueuse. Donc, moi, je suis.
Les administrés comprennent ça?
Ben oui, puisque a priori ils m'ont réélu, donc c'est une bagarre depuis longtemps que l'on mène. Par contre, je pousse un champ éolien offshore au large de Dunkerque, et puis je pousse à l'installation d'une usine qui transformerait cette énergie renouvelable en hydrogène qu'on pourrait injecter dans le réseau de gaz. Et voilà, ça n'émet rien, c'est respectueux de l'environnement, ça n'est pas un site Seveso supplémentaire. Voilà, on peut construire une autre économie qui va ramener effectivement des moyens aux collectivités, mais en s'orientant différemment. Et la dernière chose, c'est voilà, les réacteurs de Gravelines, on a annoncé leur fermeture en 2035. C'est très loin pour moi, 2035. Mais on parle déjà d'implanter un EPR. Donc là, moi, j'ai pris une position en disant, bah, s'il y a projet d'EPR, je serai le premier à ouvrir une ZAD sur le Dunkerquois pour empêcher cet EPR.
Et on sait de quoi vous êtes capable.
Oui, donc, mais voilà, il faut être cohérent dans notre action politique.
Éric Piolle, à Grenoble, sur cette question des intérêts financiers qui pourraient avoir une influence.
Il y a de toute façon un besoin de s'affranchir de cette course permanente à la croissance du PIB, un modèle qui est dépassé. Et pour cela, je trouve ce qui est fondamental, il me semble, c'est les biens communs. C'est ça qui rassemble. Regardez nos réseaux d'eau, nos réseaux de chaleur, nos réseaux d'énergie comme des biens communs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut introduire, associer des habitants à leur gestion, avoir des comités des usagers et garder le cap face aux lobbies qui sont en fait qui font miroiter que le système en pédalant plus vite va réparer ses propres travers, et on le voit ici aussi en Isère, hein, on est en lutte depuis plusieurs années contre une bulle tropicale, un village de vacances qui doit mettre une bulle tropicale
à Center Park,
dans
c'est ça,
des terres froides, exactement, à Center Park à Roibon, qui fait partie de ces grands projets inutiles. On est en lutte contre un grand centre commercial qui veut s'installer en périphérie de Grenoble, donc là on est vraiment à l'opposé de ce que nous cherchons tous à pousser. Et on résiste au lobby aussi dans des choses très concrètes. Nous avons une eau publique, elle a été remunicipalisée il y a 20 ans de cela, il y a 20 ans de cela, et on est depuis sous pression permanente. Elle est pure et non traitée, hein, elle coule des montagnes et dans les nappes phréatiques que l'on puise et qu'on donne dès le biberon à la maternité, et on doit résister aux pressions de toutes sortes, effectivement, pour qui voudraient qu'on traite cette eau chimiquement, parce que partout ailleurs, en fait, les entreprises privées préfèrent traiter plutôt que d'entretenir des réseaux qui doivent durer 100 ans, et c'est pas leur horizon de profit. Donc voilà, on peut résister clairement parce que aussi on peut développer autour du bien commun, on peut développer une envie d'autre chose, se garantir des sécurités en matière d'alimentation, et ça fait un lien ville-campagne extrêmement fort, un lien dans le territoire. En matière d'énergie, en 2022 à Grenoble, nous couvrirons les besoins d'électricité des Grenoblois avec une électricité 100% renouvelable, ni fossile ni nucléaire. Et ça, nous le faisons évidemment avec les territoires voisins, des centrales hydroélectriques, des centrales photovoltaïques. On en a inauguré une au printemps dernier sur une ancienne mine de charbon. Et donc ça donne du sens, ça donne aussi envie. Il y a des citoyens qui ont créé une coopérative de production d'énergie photovoltaïque et qui équipent maintenant les toits des écoles et certains toits privés pour produire cette énergie-là. On développe vraiment le bien commun.
Alors l'énergie, c'est très important, Éric Piolle, et là, effectivement, dès que vous avez commencé à en parler, ça s'est agité dans le studio. Vous n'avez pas les images, mais je vous assure, Jean-Claude Mensch, vous aussi, hein, vous avez évidemment pris des mesures dans ce domaine-là, à Mungersheim.
Oui, chez nous, aussi paradoxal que ça, ou étrange que ça puisse paraître, en Alsace, nous avons beaucoup de soleil. Et puis, donc, et très peu de vent. Donc, c'est plutôt vers le solaire photovoltaïque qu'on se dirige. Et nous avons initié la plus grande centrale de solaire photovoltaïque sur toiture, pour ne pas seulement mobiliser du terrain, du foncier pour de produire de l'énergie, mais aussi pour créer des activités. Donc, sous ces toitures, il y a des activités qui se sont sont implantées et de des emplois qui se sont créés. Voilà. Donc également, il y a une association, hein, de une sorte de coopérative pour la promotion et le développement du photovoltaïque domestique, hein, chez les particuliers, qui s'est créée. On a du photovoltaïque aussi en autoconsommation.
Est-ce que ça permet aux habitants de faire des économies, ça?
Pour l'instant, ça permet surtout à la collectivité de faire des économies. Ouais. Et donc des économies substantielles qui s'ajoutent à toutes les autres et qui nous permettent, en l'occurrence, de ne plus augmenter le taux des impôts communaux depuis 2005.
C'est déjà ça. Damien Carême, chez vous à Grande-Synthe.
Alors, on est, nous, la commune, avec les équipements, la piscine, les salles de sport, les écoles, on est à 100% d'électricité renouvelable qu'on ne produit pas localement. Parce qu'on a du vent, contrairement à l'Alsace, on a beaucoup de vent chez nous, mais c'est très compliqué à faire de l'éolien offshore. On a quand même du soleil, donc je vais créer à l'échelle de la communauté urbaine une SIC, une société coopérative d'intérêt commercial, qui pourra réunir les collectivités, les citoyens, pour mettre des cellules, des panneaux solaires sur les toitures publiques et privées de l'agglomération, pour fournir. Et puis, l'autre axe qu'on a beaucoup développé depuis des années, c'est surtout chez nous, c'est les performances énergétiques des bâtiments. L'énergie renouvelable sera efficace et on pourra se passer du nucléaire et des autres énergies à partir du moment où on aura fait 30% d'économie d'énergie et donc de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Et là, il y a un grand champ d'action et ça rend du pouvoir d'achat aux habitants parce que quand vous isolez leur logement, eh ben ils le sentent sur leur facture énergétique.
C'est un bon investissement. Jean-Claude Mensch, pardon.
Je peux rajouter que donc on estime que d'ici 2021, avec toutes les installations qui existent déjà et celles qui sont en cours, c'est plus du projet, ce sont des travaux qui sont en cours, on arrivera à couvrir les 17 gigawattheures de consommation de l'industrie locale, des habitants, enfin globalement quoi. Donc autonomie énergétique, mais en correspondance, électrique, hein, en correspondance.
Marie-Monique Romain, et puis ensuite on repart au standard de France Inter.
Ce que je trouve formidable dans ces témoignages, hein, c'est de voir le rôle que peuvent avoir les élus pour enclencher cette transition dont on a absolument besoin et qui, en plus, ils parviennent à rendre désirable, parce que c'est ça la question.
Parce que là, on a vraiment des élus particuliers aussi. Hein,
ah
des
oui,
gens
mais bon,
qui
il y a plein
volonté.
D'élus qui pourraient... Enfin, moi, je pense sincèrement que la transition écologique, donc encore une fois, on a besoin, parce que sinon on ne s'en sortira pas, elle partira des territoires, c'est-à-dire localement, parce qu'il faut redonner le pouvoir aux communes, aux villes, de faire le point sur quelles sont nos ressources. Vous dites que vous, à Grande-Synthe, c'est du vent, là-bas, c'est plutôt en Alsace, c'est plutôt du soleil, de s'organiser, de s'appuyer sur les citoyens qui peuvent avoir, en plus, de voir concrètement les effets de cette transition. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout du sacrifice, finalement. Enfin, ce que vous racontez, finalement, ça crée une dynamique vertueuse sur le territoire. Je pense que... Moi, je l'ai vu à l'œuvre à Ungersheim, mais je pense que c'est la même chose à Grande-Synthe ou à Grenoble, malgré les difficultés, n'est-ce pas, Éric Piolle? Donc voilà, et c'est ça le message qui est important, c'est que cette transition elle est possible et on peut la commencer ici et maintenant. Voilà.
Direction Lyon maintenant, Marie est en ligne, bonsoir Marie.
Oui, bonsoir. Non, je voulais poser une question aux différents maires qui sont invités dans votre émission là, par rapport à la transition écologique au niveau des écoles, collèges, lycées. Nous on a participé par exemple à la semaine européenne de réduction de déchets au niveau de notre école où il y a à peu près 400 élèves. Et avec tout ce qu'on a pesé à la sortie de l'école, enfin des déchets, à la sortie de la cantine, pardon, on a projeté que ça sera environ 16 tonnes de déchets sur l'année. Donc du coup, je me demandais quels étaient les exemples de bonnes pratiques qui étaient faites au niveau des écoles, des communes.
Eh bien, on va leur demander. Merci beaucoup, Marie. Jean-Claude Mensch, à Ungersheim, alors, pour les écoles.
Oui, donc, la restauration scolaire chez nous, depuis 2009, elle est 100% bio et tous les jours de la semaine. Ce qui veut dire que les grammages sont étudiés au plus près et qu'il y a en complémentarité, il y a toute une politique de consommation la plus rigoureuse possible pour éviter justement les déchets. La consommation, la confection des repas, toute une filière. Il y a également, par rapport à la consommation de la viande, un repas végétarien depuis 2009 toutes les semaines. Voilà donc ce qui fait que...
Ça ne veut pas dire qu'on paye la cantine plus cher qu'ailleurs.
Donc on a pensé aussi également que... il est important que les enfants mangent sainement, donc en l'occurrence bio, parce que ce sont des êtres en construction qui sont fragiles, vulnérables, et donc ils doivent croître normalement, et qu'il est donc de notre devoir de prendre en compte le surplus occasionné par cette alimentation bio, et donc c'est une question de santé publique en réalité. Et la collectivité prend en charge. Mais depuis 2009, les coûts ont considérablement diminué, et aujourd'hui, il y a un repas plat 100% bio qui sort de la cuisine, je peux le dire le chiffre, hein, c'est 4,20 €.
Grande Sainte, 100% bio aussi, Damien Carême.
Depuis 2011, un peu plus tard, mais c'était un peu plus. Il y a beaucoup d'enfants. Voilà, c'est 100% bio, et je pense que l'année prochaine, on sera en autonomie alimentaire, c'est-à-dire que j'installe aujourd'hui sur des terres que j'ai achetées, des maraîchers qui, soit c'est de la conversion professionnelle, soit des gens qui démarrent pour nous fournir la cantine scolaire. Donc voilà, on sera en autonomie. Donc c'est production bio et locale. On n'a pas répercuté comme Jean-Claude le ce choix qu'on fait nous parce que c'est des enfants qui nous sont confiés et que j'ai pas envie de les empoisonner, parce qu'aujourd'hui on sait que c'est grosso modo c'est un peu les empoisonner que de leur manger, de leur donner autre chose que de manger. Je voudrais pas qu'un jour une famille nous dise vous saviez et vous avez continué à les intoxiquer. Donc voilà, j'ai fait ce choix là qui est un choix politique. C'est possible partout. On a eu une petite augmentation quand on l'a fait, mais c'est vrai qu'on a retravaillé sur les menus, sur la composition. On a réduit la part carnée dans l'alimentation des enfants. On a aussi le repas de substitution qui permet de manger sans viande dans les repas de la semaine. Et puis, on a travaillé les déchets avec les enfants. On en est à moins 46% de déchets alimentaires. Donc, c'est possible quand on fait un travail pédagogique dans les cantines scolaires avec les enfants. Ils sont très intéressés, en plus.
Question aussi posée à Éric Piolle à Grenoble concernant les écoles.
Oui, c'est extrêmement important, effectivement, parce que c'est via l'alimentation aussi qu'on retrouve à la fois le sens du goût, le plaisir de manger, un autre rapport, finalement, à la nature. On vient d'obtenir, là, le prix des cantines rebelles. Et nous sommes passés, depuis 2014, notre arrivée, à un peu moins de 20% de bio et local, à plus de 50%. Nous continuons. Également, plus d'un repas végétarien par semaine. Et nous continuons. Et tout cela, un travail aussi sur le gaspillage, un travail que nous amorçons aussi sur les récipients, parce que la pollution passe aussi par là. Dans les écoles, on a fait un gros boulot sur la pollution de l'air intérieur, qui est aussi un enjeu. Donc tout cela donne du sens, en n'oubliant jamais, effectivement, la transition sociale et écologique. Les deux marchent ensemble. Et donc nous investissons chaque année plus de 3,5 millions d'euros pour permettre à 2500 enfants de manger un repas à 77 centimes d'euros par jour. Donc effectivement, c'est possible. C'est des choix politiques. Et n'oublions jamais que la partie alimentation, en tout cas pour nous qui avons 13 000 enfants, donc beaucoup d'enfants et de plus en plus d'enfants, on a ouvert 40 classes dans les 4 premières années du mandat. La transition, là, c'est absolument nécessaire et ça a besoin d'être accompagné pour tout le monde. Donc 3,5 millions d'euros pour qu'on puisse manger pour 77 centimes pour 2500 enfants, c'est important, ça m'a de pair. Et puis on a aussi ouvert, là, il y a 2 semaines, une ferme urbaine qui va produire donc du maraîchage bio et local. On avait déjà de la production interne à la mairie qui couvre environ 10% de nos besoins au self municipal. Et donc tout cela se développe en même temps que l'agriculture urbaine. Un autre rapport à la nature, un autre rapport entre les villes et les campagnes. Vous savez que les grandes métropoles, leur autonomie alimentaire, c'est à peu près 2%. Donc tout ce discours sur les phares de concentration, de création de valeur, etc. En pratique, vous coupez une ville de territoire qui l'entoure, 2%, donc ça veut dire en quelques heures, en fait, elle se retrouve sans nourriture. C'est comme cela aussi qu'on voit qu'on doit avancer ensemble.
Éric Piolle, puisque vous êtes en ligne, j'en profite pour vous poser une question là qui nous est arrivée sur au standard de France Inter. Quelqu'un qui vous demande qu'est-ce que vous attendez pour que mettre en place la gratuité des transports en commun dans votre ville.
Ça a été fait effectivement dans l'agglomération de Damien Carême à
Dunkerque. Il est en train de fanfaronner là à côté de moi.
Je fanfaronne pas.
Oui, non. Avec un petit modèle, l'enjeu du transport, en fait, c'est qu'il finance. À Dunkerque, c'était 4 millions de recettes usagées. À Grenoble, nous avons un réseau extrêmement dense qui est en forte croissance. Nous allons ouvrir 3 nouvelles lignes de tram d'ici 2023. La fréquentation augmente de 6-7% par an. C'est plus de 30 millions d'euros de recettes qui sont aujourd'hui fournies par les passagers. Et donc 30 millions de recettes, évidemment, pour développer les transports. À un moment où on développe aussi des zones de circulation restreintes.
D'ailleurs, ça râle beaucoup sur franceinter.fr. Il y en a qui vous accusent d'interdire les voitures. Et par contre, de ne pas interdire les gros 4x4. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble ?
On a été les premiers à utiliser les vignettes critères, les vignettes qui avaient été développées par Ségolène Royal. Et effectivement, ces vignettes, on ne regarde pas si c'est un 4x4 ou pas. Hein. Vous savez qu'un quart des véhicules vendus dans le monde aujourd'hui sont des 4x4. Ils regardent la motorisation et la date de la motorisation. Donc c'est un système qui n'est pas parfait, mais qui est nettement plus progressif et nettement mieux que ce qui existait avant, à savoir la circulation alternée. Donc au moment où on fait ce travail-là, il faut à la fois développer du vélo, des infrastructures à vélo. On développe des lignes qu'on appelle chrono-vélo, plus de 40 km qui sont intercommunales, larges de 4 mètres. On développe de l'autopartage. On espère avoir la première voie de covoiturage en France sur une section autoroutière pour l'accès qui est entre Lyon et Grenoble, qui permettrait vraiment là de réduire la part des personnes qui se trimballent seules dans leur voiture. On espère aussi développer un RER dans le bassin métropolitain. On est entouré de montagnes, nous avons besoin d'infrastructures de train. Et tout cela fait partie finalement d'une offre de mobilité globale. Aujourd'hui, sur la partie gratuité, 30 millions, on fait plutôt du ciblé. On a fait de la gratuité pour tous les transports scolaires. On a divisé par deux les tarifs pour les 18-25 ans.
Merci beaucoup. Damien Carême, un tout petit mot sur la gratuité de transport de l'agglomération de Dunkerque. Et puis après, promis, on retrouve Florent au standard.
Oui, je pense qu'il faut voir au cas par cas dans les agglomérations. Moi, c'est quelque chose que je soutiens. Et on n'avait pas effectivement la même contrainte qu'Éric sur le montant de ce que nous ramenait la billettique à l'époque. Mais c'est exactement là où justement le choix politique du gouvernement devrait aller. Moi, je suis pour les taxes écologiques. Il faut taxer le diesel, il faut taxer le kérosène, il faut taxer le fioul lourd des bateaux. Et cet argent qu'on collecterait, eh ben, il irait à développer l'efficacité énergétique dans le bâtiment, les transports publics gratuits. Comme ça, on peut mettre des parkings à l'extérieur des villes. Et pour se promener dans la ville, eh ben, on fait la gratuité du transport.
Oui, comment ça se passe avec
On aiderait Grenoble à avoir des transports. Il y a un centre-ville qui est assez adorable à Grenoble, piétonnier. Et donc voilà, c'est ce qu'il faut développer. Et à Paris, on pourrait aider aussi la région.
Mais quand même, visiblement, ça coince un petit peu.
Mais
hein.
Ça coince un peu, mais c'est parce que ça manque de volontarisme.
Comme promis, Florent est en ligne de la région toulousaine et il est au standard de France Inter. Bonsoir, Florent.
Bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
Merci. Oui.
Oui.
Donc j'habite une commune périurbaine de Toulouse, à une vingtaine de kilomètres. Donc je souhaitais interroger vos intervenants sur la transition démocratique, en fait, dans le sens où comment vous avez réussi, ou peut-être pas réussi, à associer les citoyens le plus tôt possible dans la décision et le lancement des projets. Et puis, juste, je voulais vous faire part d'une idée que moi j'avais eue auprès de ma commune, c'était de proposer un Fab Lab de la citoyenneté, c'est-à-dire un dispositif qui permettait d'associer le plus tôt possible et puis de tester des solutions concrètement sur le terrain et puis de les évaluer ensemble et puis d'une manière collaborative pour voir si ça fonctionnait. Voilà.
Et bien, on va demander à nos invités ce qu'ils ont pu mettre en place dans leur commune. Merci Florent. Jean-Claude Mensch, la transition démocratique, elle est en marche à Angersheim ?
La transition démocratique, c'est donc impliquer le citoyen et le responsabiliser, c'est la partie la plus difficile. Alors nous essayons de le solliciter, de l'intéresser à l'action publique par différents moyens. Donc il y a la démocratie participative qui est développée par des conseils participatifs, des conseils de sages, jury citoyens, des conseils participatifs des enfants, des personnes, un noyau de 50 personnes s'investissent régulièrement, font des propositions et qui sont quasiment toutes acceptées par le conseil municipal et validées, ce qui fait qu'ils se sentent utiles, hein, ces personnes-là. Qui s'investissent, se sentent utiles et continuent à participer.
Et là, on le voit très bien dans le documentaire de Marie-Monique Robin. Il faut voir comment ça fonctionne. Ça, hein, c'est l'ébullition. Hein.
Oui, c'est effectivement, c'est un peu l'effervescence, mais en même temps, il y a aussi des chantiers participatifs, il y a la monnaie locale complémentaire, et ce sont encore d'autres personnes qui s'investissent. Voilà, ça fait les enfants dans l'école, hein, qui ont le label 3D, école développement, démarche développement durable, parce qu'ils mangent bio, parce qu'ils sont véhiculés avec une calèche et le cheval, donc il y a un rapport au temps et à la nature qui est tout à fait différent. Et parce que, bon, ils interviennent dans les champs, on a une exploitation maraîchère bio qui alimente également la restauration scolaire. Donc ça fait beaucoup de monde qui s'investit, mais ça reste quand même une minorité, quoi. Mais c'est intéressant, et c'est en quelque sorte des gens qui sont des têtes de réseau, quoi, qui interviennent et qui transmettent le message.
Alors vous avez parlé de la monnaie locale qui s'appelle le radi. Je trouvais ça vraiment sympa d'appeler ça comme ça. Il y a aussi une monnaie locale chez
pas
vous
encore,
à Grande Synthe,
en réflexion,
en projet.
Elle est en projet.
Mais c'est pas du gadget, ça?
Ça fait vivre une économie locale. Les expériences partout. Regardez à Bayonne, ils en sont à l'équivalent du million d'euros en monnaie locale émise, et c'est vraiment, ça tourne. Et ça, donc ça fait vivre de la production locale, des commerces locaux, ça évite à l'argent d'être thésaurisé. Enfin, il y a plein de vertus à la monnaie locale. Non, c'est pas un gadget. Nous, on est un peu petit, et donc on a des soucis. Il faut qu'on travaille avec une autre commune pour agrandir la zone où cette monnaie locale pourrait s'établir. Mais moi, je pense qu'il peut pas y avoir de transition dans une commune si les habitants sont pas associés. Ça, c'est pas possible, parce que ils sont acteurs, et donc il faut leur montrer, il faut les accompagner dans cette transition-là, il faut leur montrer que c'est possible, et c'est ce qu'on a fait, nous, avec des jardins partagés, bien évidemment, sans utiliser de produits, je ne vais pas dire phytosanitaires, parce que ça ferait presque soin, donc de produits toxiques, dans les jardins, dans les poisons. On fait une fabrique de l'autonomie, alors on a créé une université populaire pour justement sensibiliser les gens, pour, j'ai l'habitude de dire comme ça, pour émanciper les gens du système dans lequel on vivait, pour les amener dans un autre système. On fait des produits ménagers, des produits cosmétiques à base de produits naturels. Ça a plusieurs intérêts, c'est que on se soigne, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de perturbateurs endocriniens. Et puis un litre de lessive fait comme ça, c'est 70 centimes d'euros, alors que c'est 3 ou 4 euros quand on va l'acheter dans le commerce. Donc ça a plein de vertus et plein d'actions mises en place comme ça. On a fait un lieu où la monnaie d'échange, c'est le temps. Donc on donne une heure de cours, si on est bon, de couture par exemple, ou une heure de couture contre une heure d'accompagnement par exemple. Oui, c'est ça. Voilà, on échange beaucoup de choses, on met d'autres, une économie du partage en place, une économie circulaire, on lutte contre l'obsolescence programmée. Bref, on fait cette transition avec les habitants.
Alors vous avez été primé cette année encore, Damien Carême. Je voudrais qu'on aille dans une autre commune maintenant qui a été primée également. C'est Saint-Privat de Vallongues, c'est en Lozère. Meilleur village pour la biodiversité 2018, le maire Gérard Rouquette est en ligne. Bonsoir monsieur Gérard Rouquette.
Oui, bonsoir à tous.
Alors moi j'aurais voulu vous poser une question simple dans votre commune qui compte 230 habitants, concernant les réalisations des derniers mois, dernières années, de quoi êtes-vous le plus fier?
Eh bien, en tant qu'observateur et un peu passeur d'histoire naturelle, c'est d'avoir fait découvrir et partager la richesse de notre faune et de notre flore dans le cadre de la réalisation de notre atlas de la biodiversité. Nous avons la chance d'être en plein cœur du parc national des Cévennes, et j'ai pu avoir l'occasion de faire participer des familles qui séjournent dans notre village de vacances à des inventaires de jour et de nuit d'ailleurs sur les papillons, les chiroptères et les oiseaux nocturnes. Et je parlerai plutôt, disons, de joie, c'est de voir les enfants qui redécouvrent, qui s'approprient la richesse de notre ciel. Nous sommes effectivement dans un territoire qui vient d'être labellisé au bénéfice du parc national des Cévennes, dans la réserve internationale de ciel étoilé. Et je dois dire que les enfants qui viennent souvent de zones urbaines redécouvrent des ciels qu'ils n'ont jamais vus. Et là, je crois que le meilleur message qu'on puisse leur faire passer, c'est celui de la dépollution lumineuse, qui effectivement perturbe d'une part l'observation du ciel, mais aussi la vie nocturne des papillons, des chauves-souris et de tous les habitants.
On aime vous écouter, Gérard Rouquette, on aime vraiment vous écouter parler de votre secteur, là, c'est magnifique.
Je vous remercie.
Une petite question, merci mille fois à vous Gérard Rouquette. On a beaucoup beaucoup de messages sur franceinter.fr, donc je suis obligée de vous presser un petit peu, mais les auditeurs nous disent pourquoi est-ce que lors du congrès des maires vous n'avez pas réussi à convaincre les autres maires d'avancer et de faire comme vous. Et là je vais peut-être poser la question à Éric Piolle qui est à Grenoble. Éric Piolle, pourquoi est-ce que tous les maires ne suivent pas votre chemin?
Il y en a beaucoup en réalité. Hein. Il y en a beaucoup sur des thèmes particuliers. Peut-être que ce qui fait la différence à Ungersheim, à Grande-Synthe, à Grenoble, comme à Valparaiso au Chili, comme à Berkeley aux États-Unis, comme dans les grandes villes espagnoles qui ont basculé aussi, comme à Innsbruck ou Amsterdam, qui ont élu des maires écolos cette année, c'est la cohérence finalement, hein, de la cohérence et l'appui sur cette participation citoyenne. À Grenoble, nous avons mis en place des budgets participatifs. Nous formons aussi, ils sont même avec un certificat délivré par Sciences Po, des citoyens, des conseils citoyens indépendants. Nous lançons des chantiers participatifs. Et quand nous avons voulu aller plus loin, faire voter des votations citoyennes par nos habitants, à tous les habitants de plus de 16 ans, quelle que soit leur nationalité ou leur statut vis-à-vis des listes électorales, nous avons été attaqués par le gouvernement. Et d'ailleurs, nous avons pour l'instant perdu, nous avons fait appel. Pourquoi ça bouge pas plus que cela? C'est aussi parce que il faut cette alchimie entre la société civile et les élus. Il y a à la fois des démarches que chacun peut prendre au niveau individuel qui sont nécessaires et que l'on peut tous faire et qu'on peut faire avec plaisir, même si ça demande de la gestion du changement, de la conduite du changement. Il y a des actions collectives comme les jardins partagés qui se développent, comme de la production d'énergie coopérative. Et il y a des actions institutionnelles. Et il faut finalement cette chaîne. Mais pour cela, il faut évidemment faire un pas de côté par rapport au modèle d'aujourd'hui et se dire que la transition sociale et écologique, la transition solidaire et écologique, ça marche ensemble. Hein, et c'est aujourd'hui finalement le choix de société face auquel on est. Est-ce que on arrose les 1%, la bulle des 1% d'en haut en estimant que ça va ruisseler jusqu'en bas, ce qu'ils ne font pas depuis plus de 40 ans, ou est-ce qu'au contraire on s'appuie sur tous, hein, sur quel que soit notre âge, quelles que soient nos fragilités, pour se dire que c'est comme cela finalement que, en garantissant quelques sécurités là pour aider à la conduite du changement, qu'on va pouvoir développer des biens communs et puis nourrir notre liberté à chacun, notre liberté de contribuer.
Merci Éric Piolle. Petite question, peut-être à vous Jean-Claude Mensch. Est-ce que ce qui a été mis en place dans votre commune est durable, ou est-ce que si une autre équipe municipale arrivait, elle ferait table rase du passé? Est-ce que vous pensez que ce sont de vrais acquis qui vont rester, quels que soient les aléas politiques?
Oui, écoutez, je pense que quand on peut assurer d'ici deux années à peine l'autonomie électrique sur un territoire, et que ça ramène même de l'argent sur le budget communal, on serait mal inspiré de l'interrompre. Quand on construit...
Vous serez candidat en 2020 à nouveau, Jean-Claude Mensch?
C'est pas encore décidé.
Depuis 89?
C'est pas encore décidé.
D'accord. Damien Carême, alors vous allez arrêter bientôt, puisque j'ai vu que vous alliez être candidat aux européennes.
Oui.
Troisième sur la liste des écolos, c'est ça?
Voilà, il faut être élu, donc...
Oui, d'accord.
Mais sinon, je me représenterai pas de toute manière prochainement, parce que je me dis, après trois mandats, je m'en vais. Après, est-ce que ça va continuer? Moi, ce que je crois, c'est que les habitants vont... Mes concitoyens vont demander. Ce que vient de dire Jean-Claude est réel, et ça serait mal inspiré de changer ces politiques qui, aujourd'hui, répondent, chez moi particulièrement, à la difficulté sociale, à notre difficulté environnementale, enfin aux crises que l'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre choix que les politiques que l'on mène. Donc, il faut... Oui, je pense que ça continuera après moi.
Marie-Monique Robin, sur tous ces exemples que vous suivez depuis des années, vous pensez aussi que ce sera durable, quels que soient les aléas?
On n'a pas d'autre...
On n'a pas d'autre choix.
Non, on n'a pas d'autre choix. Donc, ce qui est important, je pense que dans la dynamique locale qu'on peut insuffler, c'est ce que vous faites tous les trois, c'est de bien expliquer quand même, si on ne le fait pas, vers quoi on va. Une fois qu'on a fait ça, on prend un coup sur la tête un peu, il faut le reconnaître. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, changer de paradigme, c'est-à-dire que le développement dans nos communes, c'est pas de mettre des centres commerciaux, un énième centre commercial, de bétonner encore plus. C'est le futur, ce sont les jardins partagés, ce sont les fermes urbaines, c'est l'autonomie énergétique, c'est les enfants qui apprennent à semer des salades dans un jardin scolaire. C'est ça l'avenir, et c'est ça qui est magnifique. Voilà, donc on est, vous savez, dans un entre-deux. Et la question, c'est de savoir de quel côté on va basculer collectivement. Donc, on a besoin d'élus locaux qui encouragent tous ces citoyens. Il y en a partout, vous savez, il y en a partout qui ont compris ça, qui les encouragent pour que on aille le plus vite vers ce basculement dont on a besoin de toute urgence. Donc, je pense que c'est durable parce que c'est la vie qui est en jeu et qu'il n'y a pas d'autre option.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marie-Monique Robin. Merci Damien Carême, maire de Grande-Synthe. Merci Jean-Claude Mensch, maire d'Ungersheim. Merci d'être venu ce soir à France Inter. Je remercie aussi Éric Piolle qui est à Grenoble. Je remercie aussi nos amis de France Bleu Isère qui nous ont permis cette liaison à distance. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, ceux qui nous ont écrit à la technique ce soir. Arnaud Caillé, Ludovic Asselot, Lucas Vaillant. Merci aussi aux standardistes de l'émission et à June Lopère qui a réceptionné vos messages. Il est 20h sur France Inter.